Il y a des choses qui nous ont été rappelées et qu'on a déjà abordées par certains textes, d'autres qui sont peut-être des visions un peu différentes. Donc je crois que c'est l'occasion aussi peut-être pour vous de poser des questions, de profiter de la présence de Carlos Barros justement pour donner un petit peu une vision différente. Et je vous invite donc à profiter du temps qu'il nous reste, peut-être pas nécessairement beaucoup de temps. Pas passer une heure de discussion, mais le temps qui est nécessaire et agréable à passer pour converser un petit peu maintenant sur ce sujet. Voilà, la parole est à tout un chacun. C'est un peu le sujet. J'ai été intéressé par cette notion du glissement sémantique qui fait que le pèlerinage semble, disons, la réalité linguistique de la pérégrination s'oriente vers Saint-Jacques de Compostelle comme quelque chose qui devient synonyme pratiquement avec le pèlerinage. Est-ce que ce phénomène, disons, est un phénomène que les contemporains ont perçu de façon directe, ou bien est-ce que c'est une vision un peu de théoriciens, des gens qui ont, disons, le sens des mots et ont donné cette orientation. Est-ce qu'on peut avoir une idée d'une certaine extension de cette acception?
Je crois que les contemporains, j'ai appris ça dans les sources, non? J'ai mis comme exemple Dante Alighieri, non? C'est un intellectuel très important, c'est pour ça, non? Mais il y a un fait définitif, non? Pour démontrer ça, c'est-à-dire c'est les caractères massifs de pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle et alors jamais la disparition, mais si la diminue, non, la perte d'importance dans le pèlerinage à Rome et à Jérusalem. À Jérusalem, tout à fait interdit pour la guerre, non? Et à Rome, même, il y a un exemple très bon, très intéressant, que c'est la Via Francigena de l'Italie. En principe, c'est la voie pour aller à Rome. Et après, c'est la voie pour aller à Saint-Jacques. Bon, il y a un point qui encore existait une voie. Faire Rome, non, faire face à Rome, mais la majorité des pèlerins, ils font pas Rome, sinon à Saint-Jacques de Compostelle. Les collègues italiens connaissent bien ça. C'est-à-dire que j'ai appris ça. Pas dans la historiographie actuelle, sinon dans les sources, non? Et dans la propre expérience du pèlerinage et de ses sources, même de ses sources et narratives, non? Bon, pour l'exposé, j'ai utilisé à Dante, une personne très importante du point de vue culturel, mais il exprime les sentiments de ses contemporains, non, je crois.
J'avais une question par rapport à ce que vous avez mentionné, que le pèlerinage à Saint-Jacques avait une optique relativement pacifique. Mais est-ce qu'on a des cas dessous? Cas pour les premiers siècles, là où la reconquista jouait encore, on va dire dans le vif, de pèlerins qui, au final, après avoir été à Saint-Jacques, vont dans le sud combattre, s'engager dans des ordres éventuellement, et ensuite seulement retourner. Est-ce qu'il y a un petit crochet par le sud pour combattre les musulmans?
Bon, la frontière est à partir du 11e siècle et à partir surtout de la conquête de Toledo, la capitale de la couronne de Castille sur Toledo. Et alors la Galice, c'est la périphérie, même dans la couronne d'Aragon. Et tout le nord, c'est-à-dire la Galice, les Pays Basques, c'est-à-dire le règne de Navarra, il y a des sécurités. Et alors, les différentes monarchies, ils font beaucoup d'attention à la sécurité dans les chemins. Même bon, l'ordre religieux de Saint-Jacques, il se forme pour assurer le pèlerinage. Il y a une grande attention, pas seulement la sécurité pour la guerre, sinon aussi la sécurité contre les malfaiteurs. Les malfaiteurs sí que étaient un problème important. Mais il y a beaucoup d'activités des points de vue politiques et de l'Église aussi pour faire de le pèlerinage à Saint-Jacques un pèlerinage tranquille, pacifique et populaire. Non, c'est le grand succès de le pèlerinage à Saint-Jacques, c'est ça, mais grâce à l'appui même du Vatican. Non, il y a toute une opération politique en derrière de ça, mais il y a aussi un sentiment populaire tout à fait sincère de vivre comme l'apôtre, comme Jésus, avec la tunique des frères, comment dire, des frères, non, des frères. C'est un phénomène complexe, non, populaire d'un côté et d'autre côté un phénomène politique et aussi économique, parce que les commerces à travers le chemin de Saint-Jacques pour toute l'Europe, c'est très important, non.
Si je peux juste rebondir sur la question Jérôme, il me semble avoir lu un certain nombre de relations de pèlerinage au XVe siècle de nobles allemands et de nobles flamands qui ont aussi cette idée, voilà, on va faire quelque chose de militaire en Espagne. Et donc, on va à Saint-Jacques, mais on a aussi la volonté de se mettre au service de la dernière reconquête qui est en train de se faire là à Grenade, et qui prolonge effectivement. Il y a plusieurs relations du XVe siècle qui seraient intéressantes. Mais ce qui est particulier, c'est que le nombre de relations de pèlerinage que l'on conserve pour Saint-Jacques au XIVe et XVe siècle sont en majorité des gens de la condition élevée. Donc on est mieux informé sur les pèlerinages nobles et de grands marchands, des grands marchands de Nuremberg, Augsbourg, etc., de Suisse aussi, qui ont le souci de fixer par écrit ce qu'ils ont fait. Donc je crois qu'il y a moyen de trouver des choses très intéressantes sur cette vision d'un certain service à la reconquête aussi. Alors, peut-être pour aller dans un autre sens de la question, donc par rapport à ces relations de pèlerinage, mon impression est que on a un peu une vision un peu limitée du pèlerinage à une catégorie socialement élevée. comment est-ce qu'on peut s'informer concrètement sur l'importance du pèlerinage populaire. Donc, qu'est-ce qu'on a comme source pour avoir une idée quantitative du nombre de pèlerins qui étaient sur les routes, mettons, au XIVe siècle, à travers le chemin de Saint-Jacques de Compostelle? Est-ce qu'on a des comptabilités de hospices ou de auberges de pèlerinage, etc.? Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau quantitatif sur les flux de personnes qui sont sur le chemin?
Oui, c'est très difficile. C'est pratiquement impossible de faire une étude quantitative parce que les classes populaires, il y a des sources. Non, il y a des preuves, mais des preuves qualitatives. Et alors, nous, seulement pour l'hôpital, pour les peuples qui font le pèlerinage, les descriptions des actes à la cathédrale de Saint-Jacques, beaucoup de chants à ce moment-là, il y a des peuples qualitatifs. Parce que des récits de personnel avec le nom des docteurs, seulement c'est possible pour les classes dirigeantes, mais c'est un problème en général pour toute l'histoire médiévale. C'est-à-dire les sources, surtout les sources narratives, nous parlent continuellement de nobles, de prélats, de rois. Et alors l'historien doit utiliser des démarches indirectes pour savoir qu'on participe dans l'histoire. Dans ce cas, l'histoire du pèlerinage, la majorité de la société. C'est-à-dire, bon, c'est impossible du point de vue de l'histoire narrative. Il y a beaucoup de petites données dans les actes de la cathédrale, même dans les sources de la ville de Saint-Jacques de Compostelle, qui parlent de beaucoup de personnes, de monde, de gens qui font à Compostelle. Matine peut faire un tableau avec tout ça. Parce que si tu fais l'histoire seulement à travers des sources narratives, alors seulement les rois, la noblesse, les évêques voyagent à Saint-Jacques de Compostelle. Mais ils sont les derniers en faire les pèlerinages. Parce que les rois, les évêques, les nobles, ils font les pèlerinages quand tout le monde voyage à Compostelle, à partir des succès dans les classes populaires de le pèlerinage à Saint-Charles de Compostelle. Pas une, c'est-à-dire, si nous faisons l'histoire seulement à travers les sources que nous avons, et alors c'est une façon de déformer l'histoire, non? Parce que il faut donner la voix à personnes qui n'ont écrit rien parce que ils étaient analphabètes. On dit analphabètes, c'était la majorité de la société. C'est un devoir de l'historien, faire une histoire générale, non? Comme ça dépend des possibilités des sources et comme on peut indirectement chercher la participation de la majorité de la société. Dans les sources de type social et économique, c'est plus facile que dans les sources de type narratif ou politique ou institutionnel. Mais c'est pour ça qu'il faut s'intéresser pour la méthodologie, la historiographie, non, pour faire une histoire plus, comme disait Lucien Febvre, à un pacte interne. Non.
Donc, suivant ce que vous avez dit, il y aurait d'abord eu un mouvement populaire vers Saint-Jacques, et ensuite, ce sont les nobles et les prélats qui se seraient déplacés. Ou alors, est-ce que ça aurait
bon,
été l'inverse?
Bon, c'est un peu graphiquement pour une métaphore. C'est-à-dire, tout marche ensemble, non? Mais en tout cas, l'intérêt de les élites pour le chemin à Saint-Jacques, c'est après les succès populaires, parce que ça marche, les pèlerinages à Saint-Jacques, il faut l'appuyer. Et aussi, je dois dire que je parlais de la prédominance de Saint-Jacques pèlerin, mais ne disparaît pas. Les pèlerins chevaliers, matamoros, jamais. Il y a depuis les batailles de Clavijo à la fin du 15e siècle, l'Église et surtout la noblesse et la royauté, ils utilisent constamment l'idée de Saint-Jacques matamoros, non? Mais il n'est pas les Saint-Jacques plus populaires, bien sûr, non? Mais il y a une utilisation même à la dictature de général Franco, jusqu'à même en Amérique latine, s'est trouvé en Lima, dans les musées de Beaux-Arts, là-bas, et aller en Saint-Jacques chevalier contre les Espagnols. Comme ça, et pas contre les morts, contre les Espagnols. Il y a une utilisation de type propagandiste jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la paradoxe, parce que Saint-Jacques de Compostelle, c'est très important pour comprendre l'histoire de la Galice comme nationalité historique. Mais aussi, c'est très important pour comprendre la formation de l'Espagne, de l'État espagnol, de l'unité nationale en Espagne. C'est le patron de l'Espagne, c'est le patron de la Galice. Et même, ils sont manière de l'utilisation politique, mais c'est plus important pour un historien la utilisation populaire, si on peut dire comme ça, non, de le pèlerinage pour vivre d'autres façons la croyance.
Ouais. Et donc, pour revenir au succès populaire du pèlerinage, vous évoquiez une cause de ce succès qui est le millénarisme. Le millénarisme, ce n'est pas une notion qui est unanimement partagée par tous les chercheurs, en tout cas de ce que j'ai pu en lire. Donc ce ne serait pas une question, mais plutôt une demande de développement. En quoi le millénarisme aurait pu provoquer des pèlerinages?
C'est une partie importante de la nouvelle religiosité qu'exprime le pèlerinage. Et jusqu'à presque aujourd'hui, parce que Baudouin, il connaît bien parce qu'il a fait les chemins à Saint-Sac, non? Depuis, vous le savez, non? Ah, bien sûr. Et alors, normalement, la fin des chemins, c'est les tombeaux, c'est-à-dire la cathédrale. Mais il y a un petit chemin jusqu'à la mer, et à un lieu qui s'appelle, depuis le Moyen-Âge, Finisterre, aujourd'hui, Fisterra en galicien, Finisterre en espagnol, non? Et alors, il y a la fin officielle du chemin à Saint-Sac, c'est la cathédrale. Mais il y a une fin, la fin populaire, un peu parallèle, en Finisterre, où les pèlerins abandonnent les vestiments,
ses habits,
jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que, bon, Finistère, c'est la fin de pèlerinage laïque, non? Un peu, le millénarisme fait partie de la religiosité, médiévale en général. Mais c'est toujours une partie décidante, non? Un peu. Entre l'orthodoxie et la hétérodoxie, parce que l'Apocalypse de Saint-Jean, c'est là, non? Et alors, dans le Nouveau Testament, je parle de la fin des temples, non? Mais d'une façon subalterne, un peu, et dans le chemin à Compostelle, c'est comme ça. Il y a une dimension eschatologique. Toujours secondaire, mais très importante pour comprendre. C'est un lieu un lieu de rencontre entre la religiosité officielle et la religiosité populaire, non? C'est une preuve aussi du caractère populaire de pèlerinage, la importance du millénarisme. Même le professeur Baudouin, il a cité mes travaux sur la révolte irmandina des petits frères, non, à la fin du 15e siècle, qu'il avait aussi une dimension millénariste. Très, très particulière, parce que pour les clergés, les curés irmandinos, la fin des temps, c'est la Santa Hermandad, c'est-à-dire la Santa Confraternité qui anti-seigneurielle, tout ça, appuyée pour l'Église. C'est-à-dire, dans le grand moment de l'histoire médiévale, où les classes populaires participent, c'est normal de trouver une dimension millénariste.
Fait chaud.
Comme ça sur les chemins avec nous dans cette projection historique, et je crois que on sera en tout cas content aussi de voir la mise sur réseau. Donc vous nous envoyez les coordonnées de la page où cela apparaîtra, et donc on fera circuler éventuellement ça aussi de façon virtuelle. Donc merci à vous.